Merci David pour la lecture de ce texte. On a lu ces dernières semaines en tant qu'Église la vie d'Abraham. On a regardé dans le tout premier livre de la Bible cette vie de cet homme qui était déjà assez âgé, qui avec sa femme Sarah n'avait pas réussi à avoir d'enfant et à qui Dieu s'était révélé et qui lui avait dit « Va dans un pays que tu ne connais pas et je te donnerai une descendance ». Waouh, des choses pas facile à croire, compte tenu des circonstances, mais on a vu Abraham faire confiance à ce Dieu. Et tout au milieu de ce récit qu'on a lu dans la Genèse, il y a cette phrase qui est là dans ce texte qu'on vient de lire, qui est ceci. Elle a l'air toute anodine comme ça, mais elle ne l'est pas. Abraham a eu confiance en Dieu, et cela lui a été compté comme justice. Cette phrase, elle va revenir trois fois dans le chapitre 4 de l'Épître aux Romains pour montrer que la foi que Abraham a eue en Dieu, c'est un modèle pour nous dans notre manière d'avoir foi en Dieu. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça lui a été compté comme justice? Ça veut dire que Dieu l'a considéré comme juste. Abraham est en règle devant Dieu. Un synonyme, ça pourrait être que Abraham a été sauvé, pardonné, purifié, réconcilié avec Dieu. Alors la question pour nous, c'est est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, est-ce qu'on peut affirmer que nous sommes en règle avec Dieu? Et si oui, pour quelle raison? Et la réponse qu'on va voir aujourd'hui, c'est que pour quelle raison, tout cela va dépendre de ce en quoi on place notre confiance. En Jésus ou alors en nos mérites. Et c'est là que Abraham est un repère pour nous. Et je vous propose un petit spoiler de regarder la fin du chapitre 4 de Romains, les versets 23 et 24, pour avoir un aperçu. Voilà ce que dit Paul pour expliquer un peu la vie d'Abraham. « Or, ce n'est pas pour lui, donc c'est-à-dire Abraham, pour Abraham seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous, vous, chacun d'entre nous ici présents. Elle sera portée à notre compte, pourquoi ? Puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur. » Mais alors attendez, il y a peut-être un souci chronologique dans tout ça. Parce que Abraham, il a vécu en moins 2000 environ, c'est-à-dire il y a 4000 ans. Ça fait il y a longtemps. Et Jésus, il a vécu au 1er siècle, ce qui fait 2000 ans plus tard. Abraham n'avait jamais entendu parler de Jésus. Et puis, on voit un exemple aussi au verset 6, David. David, qui était un roi célèbre du peuple juif, qui a vécu à peu près en moins 1000, c'est-à-dire 1000 ans avant Jésus. Il y a encore un problème chronologique. Ces personnes, ils ont cette foi en Dieu et ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne savaient pas comment Dieu allait s'y prendre pour les déclarer justes, puisqu'on voit que c'est au moyen de Jésus qu'on est déclaré juste. Mais alors, comment se fait-il que leur foi peut être un exemple pour nous? Eh bien, c'est simplement qu'ils ont placé leur confiance, c'est synonyme, placer sa confiance et foi, dans le même Dieu. Le Dieu d'Abraham, c'est le même que le Dieu de David, c'est le même que le Dieu du temps de Jésus, et c'est le même Dieu aujourd'hui. Ils avaient placé leur confiance en Dieu. Et du coup, la question que on vient de lire à la fin du chapitre 3, verset 31, c'est bien joli tout ça, mais est-ce que par l'intermédiaire de la foi, donc ce système pour être en règle avec Dieu, on va annuler la loi où Dieu avait donné tout un tas de lois pour comment s'approcher de Dieu qu'il avait donné à Moïse en moins 1500? Bon, voilà, ça c'est un peu pour les repères chronologiques, mais est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Est-ce que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament vont dans le même sens? Et ce que dit Paul, c'est que certainement pas, au contraire, on vient confirmer ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. La preuve, les deux exemples qu'on va regarder aujourd'hui, ce sont les deux exemples que Paul va donner pour dire même déjà à l'époque, on était déclaré juste devant Dieu uniquement par la foi. Et ces deux exemples, c'est Abraham et David qui sont des personnes très respectées par les Juifs, parce que des personnes très connues. Et donc je vous propose aujourd'hui de voir ceci, Abraham et David, juste par la foi, sans rien y apporter. Nickel, merci. Et on va voir en deux temps. D'abord, l'exemple d'Abraham. Abraham déclaré juste par la foi seule. Ce seront les cinq premiers versets du chapitre 4. Et ensuite, David heureux d'être pardonné. Les versets 6 à 8. Donc d'abord, Abraham. Et c'est l'exemple d'Abraham qu'on va suivre d'ailleurs dans les trois prochaines semaines. Donc aujourd'hui et les deux prochaines semaines pour le mois de juillet. Parce qu'il va développer l'exemple d'Abraham tout au long de ce chapitre. Alors, regardons ce verset 1. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre ? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts ? Eh bien, pas grand-chose de bon. Abraham est venu dans ce pays, il était déjà riche, mais il est ressorti beaucoup plus riche et puissant. Alors, il a peut-être une gestion sage, mais à chaque fois, c'est vraiment Dieu qui l'a béni. Ce n'est pas lui, par ses propres efforts, qui a obtenu quoi que ce soit. Même, c'était d'ailleurs aux dépens de ses erreurs qu'il a été enrichi. Mais peut-être que ce texte va plutôt mettre l'accent sur sa descendance, ce que Dieu lui avait promis. Il lui avait promis une descendance, alors qu'ils étaient déjà vieux. Et ils ont essayé déjà toute une vie de couple, avoir des enfants, et ça n'avait pas marché avec sa femme Sarah. Alors, ils ont tenté une solution toute humaine d'utiliser une sorte de mère porteuse, que Abraham épouse une autre femme, Agar, qui a donné naissance à Ismaël. Mais ce n'était pas le fils que Dieu avait voulu, parce qu'il n'était pas hérité, il n'allait pas hériter de la promesse. C'était au travers de Sarah, sa femme stérile, que Dieu voulait donner une descendance. Donc, en fait, qu'a obtenu Abraham par ses propres efforts ? Malheureusement, pas grand-chose, si ce n'est des divisions internes, parce qu'il y a eu une querelle entre les femmes, et ça, c'était pas la grosse ambiance dans la famille. Et du coup, Abraham n'est pas vraiment un exemple pour dire on va arriver à faire des choses par nos propres efforts qui accompliront les promesses de Dieu. Non. Regardez ce que dit ce verset 2. Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, supposez que ça c'est vrai, il a de quoi se montrer fier, il peut être content, mais pas devant Dieu. En fait, c'est un peu paradoxal cette phrase. Elle est très ironique parce qu'elle est paradoxale. C'est que Dieu qui peut déclarer juste les personnes. Et en gros, si Abraham a de quoi se montrer fier, ça ne sera pas devant Dieu, donc en gros, ce n'est pas possible. Abraham ne peut pas se montrer fier de ce qu'il peut accomplir. Peut-être devant les hommes, on peut être fier d'avoir des accomplissements. Par exemple, quand vous marchez dans la rue, dans la métropole grenobloise, vous avez plein de noms qui vous tombent, que vous voyez, qui ont des personnes qui ont marqué l'histoire de notre nation et qui ont reçu une rue, une place en leur nom. Gabriel Péri et sa célèbre avenue là, qui passe à Saint-Martin-d'Hères, Ambroise Croizat. Que dire du maréchal Foch, de Jean Jaurès, qui a une avenue super longue à Grenoble, une des plus longues d'Europe, ou alors Victor Hugo et sa belle place à Grenoble. Alors, ils l'ont probablement mérité, ils ont peut-être de quoi être fiers devant les hommes, mais pas devant Dieu et pas plus que nous. Alors, comment Abraham a-t-il été déclaré juste ? C'est ce que dit ce verset 3. Il a eu confiance en Dieu. Il a eu foi en Dieu. Il a eu confiance en Dieu. Et cela lui a été compté comme justice. Et pour nous aider à comprendre ce concept, on a les versets 4 et 5 qui vont mettre en contraste deux situations. La situation de quelqu'un qui reçoit un dû, un salaire, et l'autre de quelqu'un qui reçoit une grâce. Regardez au verset 4. Si quelqu'un accomplit quelque chose, alors qu'au verset 5, par contre, si quelqu'un ne fait rien, je ne sais pas dans quelle situation vous préférez vous trouver, celui qui accomplit quelque chose, il va recevoir un salaire, et c'est normal. Alors que si quelqu'un ne fait rien, mais il croit, il place sa confiance en celui qui déclare juste l'impie, alors qu'est-ce que c'est l'impie ? C'est une personne qui, justement, n'est pas juste, qui n'est pas pur devant Dieu, qui est en rébellion contre Dieu, Dieu est prêt à la déclarer juste. Sans rien faire, sans pouvoir rien y apporter, Dieu permet d'être réconcilié à cette personne. Waouh ! Ça ne vous paraît pas un peu injuste ? C'est une injustice, mais dans le bon sens. Souvent, on se plaint des injustices contre nous, mais là, c'est trop injuste dans notre bon sens, en fait. On n'a rien à accomplir. Et c'est par notre foi qu'on peut bénéficier d'un cadeau, d'une grâce. Imaginez que vous regardez votre relevé de compte bancaire en fin de mois. Vous voyez figurer votre paye pour laquelle vous avez travaillé tout le mois. Et vous êtes content. Vous êtes content de l'avoir figuré sur votre relevé, mais vous n'allez pas vous réjouir outre mesure et sabrer le champagne avec vos voisins parce que vous avez reçu votre paye. Vous travaillez, on vous paye, c'est normal. On vous doit ce salaire. Mais imaginez que sur le même compte bancaire, vous voyez un virement, il y a un virement en votre faveur de la part d'une personne totalement inconnue de 5000 euros sans motif. La seule ligne réservée aux communications, c'est « grâce ». Ça fait bizarre, non ? On se sent peut-être pas méritant, on se réjouit, on a peut-être du mal à comprendre. Eh bien, c'est ce que Dieu nous propose, mais avec bien plus que 5000 euros. Le christianisme, ce n'est pas une religion qu'on dirait d'œuvre, dans le sens où on s'approche de Dieu par nos œuvres. C'est une religion de grâce. On ne peut être en règle avec Dieu uniquement en vertu de la grâce. En fait, c'est Dieu qui va faire tout le chemin de la réconciliation avec lui. Et nous devons l'accepter ou non. Alors, les œuvres sont importantes dans la foi chrétienne. Jésus a bien dit « Aime ton prochain comme toi-même, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. » Mais elles ne sont pas méritoires. Elles découlent naturellement de notre foi, de la confiance et de la soumission que nous donnons à Jésus. Alors, parmi celles et ceux qui ont grandi dans une famille chrétienne, comme c'est mon cas, vous avez peut-être cru, malgré tous les bons enseignements que vous avez reçus, où on vous parle, là, comme je suis en train de vous faire de la grâce, vous avez peut-être cru que le christianisme, ça se réduit à une forme de cadre moral, aller à l'église, avoir de bonnes valeurs, être poli, généreux, honnête, chercher le bien des autres. Et peut-être même ceux qui n'ont pas grandi dans un cadre chrétien ont cette image-là du christianisme. Je me souviens d'une discussion avec un étudiant. Il n'avait pas grandi dans une famille croyante. Il y avait juste sa grand-mère qui était, on va dire, croyante traditionnelle et qui lui avait dit « Si tu ne fais pas tes prières du soir, gare à toi !» Et c'était un peu l'image qu'il avait du christianisme. C'était « il faut faire, sinon tu vas te retrouver en mauvaise situation devant Dieu. » Et c'était une image moraliste dans laquelle on va placer notre confiance dans ce qu'on peut accomplir. Et ça n'a rien à voir, rien à voir avec la foi chrétienne. Et du coup, si on déroule le fil de cette perception moraliste de la foi chrétienne, on en vient à la conclusion que toutes les religions se ressemblent puisqu'elles vont dans le même but, où les spiritualités, un ensemble de valeurs, des rites peut-être qui diffèrent de l'un à l'autre, des préceptes qui sont censés nous rapprocher de Dieu et faire qu'on s'entende bien sur la terre. Mais le christianisme est complètement contraire à cette idée. C'est réellement une grâce qui se reçoit. Mais il faut reconnaître que c'est quand même la tendance naturelle de notre monde, le mérite. Le monde fonctionne comme ça. Tu travailles, on te paye. Tu travailles bien à l'école, tu reçois une bonne note. Le concept de grâce est vraiment contre-intuitif. Le concept de grâce, c'est par exemple, tu travailles, tu n'as aucun résultat dans ton travail, tu n'arrives à rien, mais tu reçois une augmentation et tu es même bien payé. Ou alors, malgré tous tes efforts, tu obtiens que des zéros à tes examens, mais tu passes en classe supérieure avec les félicitations du jury. Et c'est là que la foi chrétienne est vraiment surprenante. On ne peut rien faire. On ne peut que faire confiance en un homme, Jésus, pour faire partie des personnes considérées comme justes devant Dieu. Et ça a vraiment de quoi anéantir toute confiance dans la valeur de nos accomplissements qu'on pourrait avoir devant Dieu et devant les hommes, pour qu'ils nous déclarent justes. Et cette tendance, elle guette le chrétien et le non-chrétien, elle guette tout le monde en fait. C'est une tentation à laquelle nous devons vraiment faire attention, de croire que la foi chrétienne, c'est faire ceci, faire cela, aller à tel endroit, prier tous les jours, être généreux. En fait, ce sont des choses qui se font, mais qui ne nous permettent pas de nous rapprocher ou d'être réconciliés avec Dieu. Tout ça, en fait, c'est une fausse piste. Et ça guette aussi le chrétien qui a compris la grâce, qui l'a saisie, mais qui, comme c'est contre-intuitif et qu'il faut se battre contre cette idée du mérite, ça nous guette. Surtout si, par exemple, vous avez une responsabilité dans l'Église ou dans un camp, et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont avoir faire des colonies cet été, qui vont avoir des rôles, qui vont être exposés. On va vous voir à l'œuvre, en train de servir, en train peut-être de parler, en train d'animer quelque chose. Et si vous êtes exposé et qu'il y a plein de personnes qui viennent vous dire « Ah, ton travail, j'ai vraiment été touché, merci pour ce que tu as apporté », eh bien, c'est une bonne chose d'encourager et il y a de la place pour ça. Mais attention, danger pour la personne qui est ainsi exposée, parce que ça ne va pas la rendre plus juste ou plus appréciée ou plus sauvée devant Dieu. Chacun reste un pécheur qui a besoin de sa grâce. Et dans notre service dans l'Église, si on essaye d'obtenir des résultats spirituels en comptant uniquement sur nos propres efforts, on va vite se prendre le mur. Parce qu'on va, comme Abraham, hein, qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts ? Pas grand-chose. Même plutôt des problèmes. On risque plutôt d'avoir des désillusions, d'être découragé, de se sentir coupable, de jamais en faire assez. Mais si on mouille le maillot, tout en étant conscient que c'est Dieu qui a la puissance et qu'on se confie pleinement en lui, parce que c'est lui qui a la puissance de faire porter du fruit à notre travail, alors nous serons à la bonne place parce que Dieu lui-même est à sa place. Donc la foi d'Abraham, c'est un modèle de foi pour nous aujourd'hui. Abraham, il a été déclaré juste par la foi, sans rien y apporter. Et ce n'est pas tout, le deuxième exemple qu'on va voir avec David est lui aussi tout aussi frappant. David est heureux d'être pardonné. Regardez le verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres, sans rien faire. David, c'était un homme qui était très conscient de sa faillite morale, de ses fautes. C'est un roi célèbre dans l'histoire du peuple juif. Et il avait très, très bien commencé. Vous connaissez peut-être l'histoire de David et Goliath, un homme qui avait la foi qu'il pourrait battre un géant, lui qui était tout petit, et qui ensuite il commence à régner. Il a décidé de ne pas tuer son rival pour respecter Dieu. Il a été intègre. Dans son royaume, il commençait à avoir des victoires, il a mis de l'ordre, il était complètement dévoué envers Dieu. Et son règne était au plus haut, jusqu'au moment où tout dérape. Il se retrouve à convoiter la femme d'un de ses soldats, à coucher avec elle. Il se rend compte du problème que c'est, il essaye d'étouffer l'affaire, plein d'hypocrisie. Finalement, il se rend compte que ça ne marche pas, alors il décide de indirectement tuer ce soldat. Une sale histoire. Et en fait, lui qui était au sommet, il ne pouvait pas tomber plus bas. Si on peut ainsi dire, il avait épuisé tout son capital moral. Alors, est-ce que vous pensez qu'il allait se présenter devant Dieu, confiant dans sa moralité, dans ses accomplissements, dans ses propres œuvres ? Pas du tout. Alors, c'est curieux, comment est-ce qu'il peut dire qu'il est heureux, au verset 7 ? Comment est-ce qu'il peut dire « heureux ceux dont les fautes sont pardonnées » ? Mais parce qu'il avait cette compréhension que Dieu est justement quelqu'un qui est prêt à pardonner même les plus grosses fautes. Et à ce moment-là, il sait qu'il déclare juste les hommes sans les œuvres. Et il peut composer son psaume. Alors bien sûr, le processus a dû prendre du temps entre le moment où il fait la faute, où il se repent, où il se rend compte de la catastrophe, comment il a offensé Dieu, qu'il demande pardon, et qu'ensuite il soit consolé de manière à pouvoir composer ce magnifique chant, ce magnifique poème. Il y a peut-être eu un petit peu de temps qui s'est passé, mais on voit vraiment quelque chose de merveilleux. Et je vous propose juste de le relire, parce qu'on voit un peu ces étapes dans la vie de David. On va relire le psaume 32, il devrait s'afficher derrière vous, derrière moi. C'est à la page 378. Psaume 32, on va relire les versets 1 à 7. De David, cantique. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je ne t'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Waouh ! Quelle expérience, quelle transformation dans la vie de David. Jésus est cette personne qui permet d'être réconcilié. David ne la connaissait pas, mais Jésus est ce moyen par lequel nous pouvons être sauvés. Et nos transgressions ont été prises. Jésus a accompli la vie parfaite que je n'ai pas pu accomplir, et il m'offre la grâce d'être mon représentant devant Dieu. C'est pour ça qu'on a chanté tout à l'heure « Mon défenseur saura plaider ». On parle de Jésus. Mes transgressions ont été toutes portées par Jésus, et Jésus a subi justement cette condamnation sur la croix. Il y a eu ce substitut, cette substitution. Et c'est uniquement grâce à ça qu'on peut se dire « Ouais, la justice, oui, le mal a été payé. » Et la vie de Jésus, elle devient quelque part la mienne. Les mérites de Jésus deviennent les miens. Mais c'est ça l'énorme cadeau, l'énorme grâce que Dieu nous offre. Alors, prendre conscience de cette grâce, ça nous libère. C'est libérateur parce que ça nous libère du devoir d'accomplir quelque chose pour mériter de la faveur de Dieu. Dieu m'accorde sa faveur dans sa bonté. Parce que face à un Dieu parfait, ça ne sera jamais assez. Combien de prières seront suffisantes? Combien de fois je devrais lire la Bible, chanter, faire des choses? Combien d'argent devrais-je donner à des œuvres, à l'église, à des personnes dans le besoin pour compenser toutes mes faillites morales? Et quelle pression on peut parfois se mettre? Et si on se plante, tout est à refaire. Mais le pire, c'est qu'on va se planter. Imaginez, mais c'est une vie terrible, un vrai carcan. Lâchons tout ça. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sous un fardeau que vous vous mettez, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes, et mon fardeau léger. Jésus nous propose de le suivre, d'accepter ses exigences, parce qu'il est un maître qui n'impose pas de fardeau impossible à porter. Alors, j'ai de la chance à ce moment-là, parce que je n'ai pas besoin de monter en grade et de faire mes preuves pour être un vrai chrétien et de monter en niveau. En fait, le regard de Dieu sur moi, ce n'est pas celui d'un patron intraitable, mais c'est celui d'un père bienveillant qui m'invite à suivre Jésus. Alors, ayant dit cela, peut-être dans votre vie chrétienne, vous vous sentez indigne de Dieu parce que vous vous êtes pris les pieds dans le tapis. Et l'exemple de David peut vraiment nous aider. Lui qui a fait une chute énorme dans sa moralité. Si on se dit, et parfois la pensée elle est inconsciente, mais elle est là quand même. Si on se dit, mais non, je ne vais pas me tourner vers Dieu, j'ai trop honte, je ne le mérite pas. Eh bien, c'est probablement qu'on est encore trop focalisé sur nous-mêmes et ce qu'on pourrait accomplir pour plaire à Dieu. Au contraire, on devrait tourner nos regards vers Jésus, son sacrifice à notre place, le fait qu'il a porté la honte et la culpabilité sur lui et implorer sa grâce. Et vous savez quoi ? C'est une prière à laquelle Dieu répondra toujours favorablement, parce que c'est dans son caractère. Il est comme ça, c'est un Dieu de grâce. Alors avec quoi allons-nous nous présenter devant Dieu ? Ben, pas grand-chose, rien, juste un cœur brisé. Et si nous avons du mal à prier après une faute, peut-être qu'on se censure pour les mauvaises raisons. Seule la grâce de Dieu nous permet d'être remis sur pied. Et alors petit à petit, on prend conscience de ce pardon, de cette libération, que Dieu couvre nos fautes, comme il l'écrit, qu'il ne tient pas en compte de nos transgressions, qu'il pardonne notre péché. Et là, on peut commencer à pousser un gros ouf de soulagement. Dieu me pardonne, alors que je ne le mérite pas. Comment peut-il tant m'aimer ? Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Le christianisme n'est pas une religion de flagellation, où dès qu'on a fait une faute, je vais devoir expier cela en faisant ci, en faisant ça. Non, c'est une religion de joie, une religion de reconnaissance, de réaction face à la grâce de Dieu. Alors bien sûr, prendre conscience de ses fautes, de son incapacité à les compenser, c'est indispensable. Mais ça ne doit jamais se déconnecter de la réalité que Dieu a payé pour nos fautes au travers de Jésus et qu'il est prêt à nous les pardonner, quelles qu'elles soient, si nous le lui demandons. La grâce couvre nos fautes, le soulagement remplace la crainte et la joie remplace la tristesse. David, s'il avait vécu aujourd'hui, il aurait peut-être composé le chant « Oh Happy Day » parce que les paroles, c'est exactement la même chose. « Oh Happy Day when Jesus washed my sins away » et on va le chanter tout à l'heure. Quel bonheur d'être pardonné, quel jour merveilleux quand Jésus a lavé mes péchés. C'est ça la traduction de cette phrase. Et du coup, cette joie qui devient celle du chrétien qui prend conscience du pardon, de la grâce de Dieu et de l'amour infini, elle va nous motiver, elle va motiver le chrétien à servir Dieu avec zèle, à accomplir des bonnes œuvres. Mais jamais ce service ou ce zèle ne permettra d'obtenir quoi que ce soit pour être déclaré juste devant Dieu. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts ? Rien. David, pas mieux. Nous, pas mieux. Abraham et David, ils sont juste par la foi, sans rien y apporter. Johan, tu as été déclaré juste parce qu'un jour, tu as mis ta confiance en Dieu sans que tu puisses rien y apporter. Et nous tous, que nous soyons chrétiens ou pas, luttons contre cette tentation de vouloir nous présenter avec nos mérites devant Dieu parce que seuls les mérites de Jésus nous sauvent. Alors, à lui seul soit la gloire. Et je vous propose un moment de prière pour terminer ce moment où vous pouvez exprimer ce que vous avez sur le cœur devant Dieu, dans votre cœur, ou ceux qui le veulent peuvent le faire à voix haute. Et on prendra ensuite des chants.